Le fils Moga, deuxième partie, chapitre 17. Les jours d'été sont revenus. La lumière argentée des belles matinées de juin s'épand libéralement sur le bois des Courtils, la côte des Murets et la vallée de l'Aigronne. Dans le clos de la Joubardière, à l'endroit où finit le potager et où commence la prairie, Étienne travaille, assis devant son chevalet, tandis qu'à ses pieds, parmi l'herbe drue, se roulent ses deux premiers nés, deux drôles de 3 à 5 ans, gaillards et râblés à souhait. À travers les branches des arbres fruitiers, le soleil fait pleuvoir des gouttes lumineuses sur les têtes bouclées, sur les chairs dorées par le hâle et sur les grands yeux épanouis des bambins. Étienne est maintenant maître et seigneur de la Joubardière. Un an après son mariage, grâce au zèle de Célestin Tiffenot, la liquidation de la maison Moga s'est trouvée terminée et, les créanciers une fois désintéressés, il est resté net une somme de 20 000 francs, plus une quantité de créances d'origine équivoque, dont le fils du banquier s'est hâté de faire l'abandon au débiteur. Quant à cette épave de 20 000 francs, représentant à peu près la dot de sa mère, Étienne l'a employée à acheter la métairie louée au Baillargeon, et il s'y est installé avec Thérèse et les deux métayers, qui achèvent d'y vieillir en paix. Le succès de l'enterrement au village, au salon de 1858, lui a valu une médaille et de nombreuses commandes qui lui permettent de mener une existence tranquille et indépendante à la Joubardière. Il ne passe guère à Paris que 2 ou 3 mois. Il vit le reste de l'année dans ce coin de la Touraine, où il travaille plus à l'aise et où il est tout entier à sa femme et à ses enfants. Les deux jeunes drôles ont sucé la force et la santé aux mamelles de la mère nature. En piochant son étude, Étienne les regarde de temps à autre se vautrer dans l'herbe et les admire. Autour de lui, tout est clair et joyeux. L'herbe haute de la prairie ondule et semble vouloir submerger les troncs des pommiers avec ses vagues blondissantes. Le bouillonnement de la rivière, le bourdonnement des insectes, la flûte des loriots, les mugissements des vaches et le clairon des coqs s'unissent pour former une musique allègre et réconfortante. Des touffes de coquelicots jettent leurs notes écarlates dans la verdure des prés. Au long des plates-bandes du potager, les amarantes, les juliennes et les œillets se pavanent en pleine lumière. Un parfum de girofle se mêle à la senteur exquise des fraises mûrissantes. Les framboises, aux baies purpurines, foisonnent sous les feuilles à triple découpure, et les cerisiers sont rouges de fruits. Une bonne odeur de bien-être et d'abondance s'exhale de partout. Des pas légers font crier le sable de l'allée. Les ramures des framboisiers s'écartent vivement et, dans une flambée de soleil, Thérèse apparaît, encadrée de verdure et accueillie par les cris d'oiseaux des marmots. Elle est vêtue en campagnarde et elle a conservé la coiffe tourangelle dont ses cheveux épais soulèvent la mousseline tuyautée. Le moelleux gonflement de sa poitrine, la courbe élargie et onduleuse des hanches, un certain alanguissement de la démarche semblent déjà annoncer que les deux premiers-nés ne seront pas les derniers, et que l'épouse robuste n'est pas lasse des joies de la maternité. Ses yeux noirs ont un éclat humide, ses dents blanches et saines étincellent dans un sourire, une nuance rosée colore ses joues mates et rondes. Dans ses bras demi-nus, elle porte un panier plein de fraises et de framboises fraîchement cueillies. Étienne, émerveillé, dépose sa palette pour mieux voir sa femme. Les yeux aimants et charmés se rencontrent dans un sourire. Au milieu des frondaisons plantureuses de la Joubardière, sous ce doux ciel de Touraine, en face de ces présents fleurs, de ces cerisiers mûrs, de ces enfants hâlés qui se roulent dans l'herbe, de cette épouse jeune et féconde, Étienne se sent royalement heureux. Son cœur ploie sous ce trop-plein de bonheur comme une branche plie sous le poids des fruits. Tous deux se regardent, émus. Une même pensée gonfle leur poitrine et mouille lentement leurs paupières. Cette complète félicité les effraie. Ils sont pris en même temps de cette inquiétude mystérieuse qu'on éprouve parfois dans l'enfance, à la veille du dimanche, lorsque, avec un frisson mélancolique, on songe que le lendemain, à pareille heure, la fête sera presque finie et la coupe de joie déjà presque épuisée.